Vous écoutez
RMC. RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz, avec Walid Acharchour et Ricardo Fati, est-ce que le foot d'aujourd'hui vous plaît, vous déplaît? Qu'est-ce qui vous dérange dans son évolution contemporaine? Il y a pas mal de messages, bien sûr, hein. Sur Direct Studio notamment. Kevin nous dit, moi je n'arrive plus à regarder le foot depuis que toutes les stars partent en Arabie Saoudite et au Qatar. Quelle tristesse, un footballeur mercenaire. Le sont-ils plus qu'avant? Ça, c'est une vraie question aussi. Parce que tu as une idée là-dessus, Ricardo, toi? T'as le sentiment que le goût pour l'argent s'est accentué encore plus?
Ah, bien sûr que c'est accentué.
Parce qu'il y en a encore plus à prendre.
Bah, c'est clair. Après, c'est aussi compréhensible parce que le joueur, il a toujours envie d'optimiser sa carrière, pardon, d'un point de vue aussi financier. Donc maintenant, les clubs sont plus enclins à ça. On le voit même au niveau des effectifs qui changent chaque année, renouvellement, ou des clubs qui sont clairement dans des objectifs de trading. Donc voilà, c'est tout un système qui est mis en place et qui est un peu inquiétant parce qu'à terme, ça peut, c'est une sorte de bulle qui s'est créée qui peut exploser aussi. Hein. Mais moi, en fait, moi, ce qui me déplaît le plus, si je peux enchaîner sur mon...
Vas-y, Ricardo.
Au-delà de tout ça, moi, c'est vraiment, en tant qu'ancien joueur, c'est vraiment le calendrier qui me gêne et la mise en place des compétitions qui arrivent dans les prochaines années qui va vraiment être problématique, je pense, pour le footballeur et pour le football aussi en général. Parce que bon, là maintenant, on entend de plus en plus les acteurs, donc les footballeurs, se plaindre, que ce soit les grands joueurs, même les joueurs moyens, hein, que ce soit les Guardiola, que ce soit De Bruyne, on l'a vu, qui disait qu'il avait seulement une semaine de vacances à l'intersaison, donc il enchaînait quasiment deux saisons, et c'est compliqué, ça joue sur les organismes, c'est compliqué, et puis même au niveau des ligues, il y a moins de compétitivité, il y a moins de... Voilà, la... Tout ça fausse un peu le jeu, je dirais. Et c'est assez frustrant parce que après vraiment donner trop de football, ça peut à terme vraiment lasser même les supporters. Donc le football doit rester quand même assez on va dire exclusif. On doit laisser la place aussi à chacun de s'exprimer. Et puis j'ai l'impression qu'avec ces nouvelles formules, que ce soit Kevin l'a dit, avec la Champions League, on n'y comprend plus rien. Les fans n'ont plus leur mot à dire, les footballeurs n'ont plus leur mot à dire. C'est les matchs qui commencent à être délocalisés dans certains pays dits exotiques. Ça peut être assez dérangeant. Et puis à terme, les joueurs sont rincés. Et puis
la Coupe du Monde 2030 dans 600 plus. Pays, l'Euro 2020 dans toute l'Europe, tout ça là, tout ça.
Ouais, c'est aussi la rareté qui fait la beauté du football européen aussi. Donc pour le coup, après les joueurs, on a l'impression qu'ils subissent un peu tout ça et à la fin on manque de créativité, on manque de talent à terme et ça peut être dommage pour le football, hein.
Je regardais l'autre jour justement, on en a parlé dans un after il y a deux semaines je crois, sur le nombre de matchs joués par saison au maximum, un classement depuis les années 90. Finalement, c'est à la marge, hein. Il n'y a pas une grosse différence, ça se joue à 4-5 matchs maximum. Alors, la différence, effectivement, c'est l'intensité.
Attention, moi, je parle
l'intensité
pas
et les déplacements.
Je parle pas forcément du nombre de matchs. Moi, je parle du calendrier mis en place. Il y a de plus en plus de fenêtres qui se sont installées maintenant.
D'accord.
Et par exemple, t'as des championnats qui commencent à s'empiéter l'un sur l'autre. Par exemple, t'as des matchs à l'époque, par exemple, les fenêtres internationales, t'avais deux matchs. Maintenant, t'en as trois. L'équipe de France, en général, ils faisaient deux matchs. T'en as trois. En Amérique du Sud, ils font trois matchs. Ça veut dire que des fois, ils jouent 48 heures avant un match en Europe. Le temps que le Sud-Américain ou l'Africain arrive dans son club en Europe pour rejouer, c'est compliqué de faire ça chaque semaine. Les matchs de Champions League, ça s'est intensifié. Maintenant, on a des matchs qui sont même installés mi-juin. Donc, c'est plus les fenêtres de tir au niveau des matchs qui sont vraiment... qui sont pleines, en fait. Et avec la Coupe du Monde des clubs qui arrive, la nouvelle formule de Champions League qui arrive... Je vois une issue assez compliquée.
Alors j'ai entendu, tu sais, quand Aurélien Tchouaméni avait très très bien parlé d'ailleurs il y a quelques semaines là, justement sur le calendrier, certains lui ont répondu OK, mais si tu fais moins de matchs, est-ce que il serait prêt à baisser son salaire? Mais le
Van Dijk avait dit oui finalement.
Ouais, mais c'est pas
bien,
la question.
Mais je pense que les joueurs à un moment si ils ont moins de matchs, surtout des matchs qui pour eux ne sert pas à grand chose, hein, c'est-à-dire de, je suis désolé, mais aller faire un match contre les Liechtenstein avec l'équipe de France, est-ce que vraiment, est-ce que le joueur, il a envie toujours de le jouer, j'en suis pas sûr, ou aller faire un match de Coupe de la Ligue anglaise contre une cinquième division, je suis pas sûr non plus, même si, ok, ça fait vivre les clubs. Bien sûr, tout le monde en est conscient. Mais le calendrier, aujourd'hui, c'est pareil. On avait reproché cette polémique avec le PSG d'avoir, de ne pas avoir pris le train, etc. Mais, même pour les voyages, même pour le niveau, même pour le côté écologique, cette Coupe du Monde qui va venir là où tu vas devoir aller en Uruguay, en Espagne, au Portugal, au Maroc, en Argentine. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et ceux qui décident, bien sûr, ils veulent plus d'argent pour les clubs, plus d'argent pour leur organisation. Je ne sais pas exactement où va cet argent. Mais il y a un moment, il va falloir retrouver la raison et tous ces enjeux qui soient écologiques, qui soient financiers, qui soient sportifs, qui soient physiques et mentales, même pour les joueurs, je peux te dire
surtout
que
mental.
Il y a un moment, il va falloir que de toute façon ça change. C'est impossible autrement. Et ces compétitions qui nous rajoutent année après année, ces trucs où maintenant, je te dis, les compétitions dans plusieurs pays, la Coupe du Monde avec un nombre de pays qui c'est irrationnel. C'est la prochaine formule de la Coupe du Monde, mais je suis désolé.
Moi, c'est surtout ça, en fait, qui me dérange, c'est que les compétitions vont changer. Et moi, par rapport à mon foot, alors c'est peut-être égoïste, hein. J'ai pas eu l'occasion de voir une Ligue des Champions différente de celle-ci. Bon, j'ai commencé un peu à regarder le foot entre 99 et 2002. Donc, il y a eu ces deux phases de poule, notamment, on se rappelle de l'épopée de Nantes. Donc, ça existait. Mais véritablement, quand j'ai commencé à regarder le foot de façon fréquente, ma Ligue des Champions, c'est cette phase de poule. Après, ouais. 8e de finale, quart, demi, finale, comme sur la dernière, comme les épopées qu'on a vues extraordinaires d'il y a 2 ans, comme celle de 2019 où on a eu du suspense à tous les matchs. On se rappelle de l'Ajax Tottenham, on se rappelle du Manchester United PSG. On va pas tous les faire, mais on a vécu beaucoup beaucoup d'émotions et surtout on avait une compréhension de la compétition. Là, on saute dans l'inconnu, l'année prochaine avec une espèce de compétition dont on comprend pas et on va voir. On donnera sa chance au pro. Mais j'ai pas l'impression qu'en fait on va sur le bon chemin.
Ça va être 2-3 ans, ils vont la changer.
La même chose pour la Coupe du Monde, que ce soit sur le fait d'attribuer un petit peu pour essayer de récompenser tout le monde et contenter tout le monde, parce que la Coupe du Monde a 100 ans, donc tu dois faire le centenario en Uruguay.
C'est une excuse pour arriver à donner la Coupe du Monde à l'Arabie Saoudite.
Exactement.
C'est des trucs où ils croient que.
Parce que l'argent, je reviens au premier avis de Kevin, parce que l'argent est aussi là-bas aujourd'hui. Ouais. Qui peut payer aujourd'hui pour le foot, pour organiser des compétitions? C'est soit le Qatar, on l'a vécu l'hiver dernier, soit l'Arabie Saoudite.
Et une compétition, encore une fois, comme la Coupe du Monde, où la même chose, ça va changer. Déjà que moi, dans mon adolescence, le fait d'avoir connu un Euro à 16 et un Euro à 24, ou une canne à 16 et une canne à 24, moi, je suis pas sûr que le niveau de ces championnats-là ont été élevés vers le haut. Et c'est pour ça que ça me fait une très belle transition sur le niveau actuel du foot. C'est que moi, oui, bien évidemment que je peux pas comparer avec quand j'étais petit, parce que je dis pas que le foot était mieux avant. Aujourd'hui, c'est tactiquement, on a progressé, on a un pressing, on a un contre-pressing, on a des staffs très très fournis, on a dans la compréhension du foot bien bien évolué. Mais moi, je trouve que ce soit sur le niveau des joueurs ou le niveau des équipes en termes de qualité de joueurs, ça a baissé. Quand je vois le 11 de Manchester United ce week-end et le back four avec Johnny Evans qui était là déjà en 2011, t'es obligé de faire jouer des milieux de terrain, donc on va parler de planification sportive, mais le niveau réel des joueurs, j'ai vu le classico, il y a eu des résumés de la part de beIN Sport une heure avant le classico des années 2010 où tu voyais les joueurs qu'il y avait,
et même le niveau global de Ligue des Champions,
global qu'il y avait, quand tu vois les joueurs, certains joueurs au Barça actuellement ou certains joueurs au Real Madrid, mais à cette époque-là, je sais même pas s'ils sont dans le groupe.
Mais au-delà des joueurs, c'est plutôt le niveau aussi, hein.
Exactement, j'allais y venir, c'est-à-dire que depuis le début de saison, alors il y en a qui diront c'est le début de saison, c'est vrai qu'on s'est jamais éclaté en poule, c'est vrai, on va attendre ce qui va se passer sur la deuxième partie de saison, mais déjà l'année dernière, j'ai trouvé que la Ligue des Champions était d'un faible niveau, et hormis le 4-0 City-Real Madrid, on a eu très très peu d'émotions dans cette Ligue des Champions, très très peu d'émotions. Le Bayern City le Bayern PSG ça a fait pchit.
À cause d'une année folle, comme l'a dit Ricky, parce qu'il y a une Coupe du Monde au milieu aussi.
Mais oui, donc ça fait partie aussi.
Exactement.
Des calendriers.
Pourquoi il y a une Coupe du Monde au milieu? Parce qu'il fallait la mettre là, parce qu'on pouvait pas la mettre ailleurs.
Parce qu'il y avait du blé.
Ça fait partie des calendriers, bien évidemment. Et sur le début de saison, je regarde les matchs aller de la Ligue des Champions, les championnats, je bouffe du foot énormément. Donc peut-être que je suis dans l'erreur, peut-être que j'ai pas assez de recul, mais c'est la première fois où parfois, en fait, Nico, moi, j'appelle même pas ça un métier. Ce que je fais ici au WFC, au Club des 5, c'est pas un métier pour moi. On est là, on parle de football. Mais il y a certains matchs où cette saison, même beaucoup de matchs, je me fais cette réflexion de plus en plus où ça devient un métier, ça devient lourd parce qu'on se dit purée, le niveau de jeu, les joueurs frissons, et je vais y venir là-dessus.
Ça, on va en parler après.
On en parlera après, mais le joueur, les stars qu'il y a aujourd'hui dans ce football. Alors bien évidemment qu'on est aussi dans une saison où il y a beaucoup de stars qui sont partis en Arabie Saoudite de notre génération, il y a beaucoup de joueurs qui ont arrêté leur carrière.
Il y a une fin de cycle.
Il y a une fin de cycle, donc ça aussi il faut le dire, il faut être honnête là-dessus. On va voir ce qui va se passer en renouvellement de génération, mais quand je vois les joueurs qui arrivent par rapport à ceux qui sont partis, sur le côté frisson, sur le, on en parlera après.
On parlera après des profils des joueurs, aujourd'hui du 21e siècle.
Sur ce que tu dis, Walid. Pourquoi?
Et après pause.
Pourquoi t'as l'impression? Il faut regarder. Moi, il y a un truc que j'adore dans le foot, c'est regarder les trajectoires des joueurs. Regarder leur carrière. Virgil van Dijk, je l'ai connu très jeune aux Pays-Bas, FC Groningen. Ok. Aujourd'hui, Virgil van Dijk, il éclate au FC Groningen, il signe à Liverpool demain, en fait. Et peut-être qu'il crache après à Liverpool. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Il a fait Groningen, il est parti au Celtic, il est parti à Southampton. Et ensuite, à 25 ans ou 26 ans, il est arrivé à Liverpool avec une maturité. Ruben Dias, tout le monde le connaît. Il devait aller à Lyon, vous vous rappelez.
Oui,
il n'est pas parti à Lyon parce qu'il n'a pas eu le grand club à son échelle. Il était quand même à Benfica. Ce n'était pas assez peut-être élevé pour lui ce qu'il réclamait. Peut-être qu'il voulait du Manchester, il voulait du Paris, j'en sais rien. Mais en attendant, quand il est parti, il était prêt à partir. Il est parti à 24 ans. Il n'était pas capitaine tout le temps, mais il était souvent capitaine du Benfica. Le mec arrive avec une stature et aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde. Mais Renato Sanchez, mais Gonzalo Guedes, j'en ai parlé tout à l'heure de João Félix, qui partent à 18, 19 ans avec 50 matchs à peine de haut niveau. Mais ces mecs-là, ils se crachent parce que c'est écrit. Donc aujourd'hui, comment tu vas avoir une nouvelle génération puisque les mecs, soit ils sont millionnaires à 19 piges, va chercher la mentalité, va chercher en toi l'envie d'aller chercher des titres, l'envie d'aller. Mais les mecs, c'est même psychologiquement, c'est difficile déjà. Les mecs à 19 ans, ils sont millionnaires. Okay. Comment tu veux qu'ils aillent chercher
toujours,
la Grinta d'un Luka Modric qui à 25 ans était dans son prime, mais est arrivé au Real.
Il y a toujours des contre-exemples, évidemment. De Vinicius à Neymar aussi, qui arrive très jeune dans des gros clubs.
Et Neymar, il est où aujourd'hui?
Bon, il a quand même fait sa carrière. Reste avec nous.
Il a pas fait celle qu'il aurait
pu. Dans un instant, on aura Hicham au 32-16 également, qui va nous expliquer qu'il n'a plus la même passion qu'avant. Pourtant, il n'est pas vieux, Hicham. Et puis Walid aussi, qui lui veut évoquer ce que beaucoup évoquent sur le chat de la chaîne YouTube de l'After. J'ai moins de joueurs qui m'excitent, frissons.
C'est la réalité.
J'ai plus de numéro 10, j'ai plus de 9 qui m'impressionnent, de moins en moins en tout cas. On va en parler.
Déjà, par rapport au chat, ils m'ont corrigé. Déjà, je les remercie. Oui. Mais à Kulpa, j'avais dit qu'il y avait 3 matchs pendant les.
Oui, c'est ça.
Matchs.
Il y en a deux.
3 c'était pendant le Covid, en tout cas.
Exactement.
Merci au chat qui m'ont corrigé.
Et le back four Manchester United, je vous le cite, ce week-end. Donc, Diogo Dalot,
oui, mais là,
Harry Maguire, Johnny Evans, Lindelof.
Oui, mais là, c'est aussi une mauvaise gestion du club.
Bah oui,
ça
participe par rapport à l'argent.
C'est pas mal.
Par rapport à. C'est pas mal.
Allez, pause, on va dans un instant pour la suite du débat.
Il y a 20 ans.
C'est Génération After sur RMC.